Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Gameblog pour un nouveau podcast de la rédaction. Nouveau podcast entièrement consacré aux jeux cette semaine. On va parler beaucoup, beaucoup de jeux, pas mal de next-gen, vous allez le voir. Avec moi, pour commencer, nous avons Johnny One.
Bonjour!
Comment ça va, Johnny?
Oh, ça va, tranquille. On est à
La
l'école aujourd'hui.
Ouais, bah, je vois ça, t'es à l'école, donc Johnny qui passe son brevet cette année, hein, on rappelle. Et
Exactement,
donc
tout à fait.
là.
On va essayer de l'avoir.
Voilà, et là donc il est en colle, donc du coup bah voilà, il s'amuse derrière avec le tableau à faire des petits dessins. Évidemment, c'est pas très bien, Johnny, tout ça. On a évidemment aussi Rami avec nous.
Salut, salut.
Ça va, Rami? Alors toi, par contre, tu es à la bibliothèque, voilà. Donc
Exactement.
vous êtes vous qui nous
Au
voyez en
taf.
vidéo, vous pouvez voir que on a tous des occupations très diverses. Et normalement, d'ici quelques secondes, on devrait aussi avoir Alix. Qui doit arriver normalement, mais Alix ayant un emploi du temps de ministre et on ne sait absolument pas où il va se retrouver justement quand il va arriver. Ça se trouve, il sera chez des concurrents, ça se trouve, il sera au supermarché, ça se trouve, il sera dans un terrain vague. On n'en a aucune idée. C'est ça la magie d'Alix, c'est qu'on ne sait jamais où il est ni à quelle heure. Cette semaine, je vous l'ai dit, il y a des jeux. On va parler uniquement de jeux. Demon's Souls, mon cher Johnny, Call
Oh
of
oui.
Duty. Black Ops Cold War, mon
Mais
cher
oui.
Rami. Il y aura normalement, si Alix vient, puisque on ne sait pas encore, hein, ça se trouve, il ne va peut-être pas arriver. Hein. Il aime bien nous faire des blagues comme ça. Spider-Man, Miles Morales, Bugsnax, parce qu'on a tendance un peu à l'oublier, et NBA 2K21, mais en version next-gen, parce qu'il paraît que ce n'est pas le même jeu, ou presque. On verra ça évidemment tout à l'heure. Mais avant d'aborder tous ces jeux qui sont plus ou moins paru en test sur Gameblog, nous allons évidemment passer au win et au fail de la semaine. Le win et le fail de la semaine, on commence avec le win, évidemment. Rami, mon cher Rami, il y a une étude qui est parue et qui fait du bien au moral.
Et oui, le win de la semaine concerne une étude sur le jeu vidéo, une étude positive et non négative, comme on a l'habitude de le voir.
Ah.
Cette étude menée par l'Oxford Internet Institute, désolé, j'ai un peu de mal, révèle que jouer est bon pour le moral.
Ah.
C'est assez surprenant. En effet, les joueurs interrogés pour cette étude se disent majoritairement heureux. Les chercheurs tempèrent normalement parce que, expliquant qu'une personne jouant plusieurs heures, par exemple à Animal Crossing, peut dire qu'elle est plus heureuse. Et pour autant, cela ne signifie pas que c'est le jeu en lui-même qui rend heureux. Cela pourrait notamment être dû, en tout cas, aux interactions sociales, c'est ce qu'ils disent en tout cas dans la recherche, interactions sociales qu'il y a au sein du jeu. Et en tout cas, ils cherchent un peu à avoir d'avis d'autres développeurs pour un peu essayer de documenter davantage cette recherche. Mais en tout cas, il n'y a pas de mal à jouer et se faire du bien apparemment.
Ok, donc ça suggère que ouais, ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est pas, je crois
Oui.
qu'il nous avait aussi renseigné il y a genre un peu plus d'un an qu'il n'y avait pas de lien de cause à effet entre jouer et avoir un comportement violent, si je me rappelle.
Exactement, il disait qu'il n'y avait aucun rapport entre une attitude agressive et la pratique du jeu vidéo. Donc ouais, leurs recherches vont dans le bon sens et ça montre en fait que le jeu vidéo, c'est pas forcément abrutissant ou
Ça
devenir
développe tes
pour.
réflexes.
Exactement.
Oh, bah si on fait le comment, si on classe toutes les études qui permettent aussi de voir qu'effectivement ça permet d'améliorer ses comment dire sa reconnaissance de l'espace, son
Merci, docteur
apprentissage. Ouais,
Kawashima.
voilà, exactement. Toutes ces choses, on les note aussi, évidemment. Il y aura toujours des études qui pourront nous essayer de nous démontrer le contraire et qui ont peut-être raison d'ailleurs. Mais en attendant, c'est vrai qu'il y a aussi des bonnes choses à tirer du jeu vidéo. Ça ne fait pas que nous envoyer en colle, mon cher Johnny One.
Exactement. Bientôt, Netflix vous indiquera votre temps d'écran, peut-être un jour.
Eh bien, je reste avec toi, du coup, Johnny.
Ouais,
Je viens de
alors
t'interpeller
c'est le
parce que
fail, c'est
le
ça?
fail de la semaine, ouais.
Ouais. Oh, quelle histoire, mon Dieu.
Ouais.
Vous vous souvenez, sur Nintendo GameCube, il y a quoi de ça? Une quinzaine d'années, je dirais, quelque chose comme ça.
2003.
Un jeu 2003. Oh, ça fait
2003.
plus que 15 ans, même.
Je
Oh,
l'ai
ça en
testé
fait
pour Joypad,
7.
donc je peux te le dire.
Ok. Donc, eh
Voilà.
bien, on avait un petit jeu qui s'appelait 13 qui sortait. Alors, 13, c'est un peu une institution ici en France. C'est une des BD les plus connues chez nous qui nous raconte l'histoire d'un homme avec un 13 tatoué sur le corps, totalement amnésique. Pourquoi il est le 13e? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est tombé? Une grande conspiration. Que va-t-il se passer? Bref, la BD était géniale. On avait eu droit à un jeu à l'époque, donc sur GameCube, qui était plutôt pas mal avec des petits graphismes. graphisme cel shadé.
Il est sorti sur PS2.
C'est vrai, il n'y avait pas GameCube. Pourquoi j'ai souvenir d'une version GameCube? Il y avait PS2, Xbox aussi. Bon, moi, j'ai souvenir de la version GameCube. Donc, le jeu était plutôt mignon, plutôt sympa, avec ses petits graphismes et tout. Et bah, comme vous le savez, dans le jeu vidéo, l'originalité est un peu au point mort. Du coup, qu'est-ce qu'on en a fait? On en a fait un remake cette année. Voilà. Et le remake, bah, il est peut-être sorti un petit peu trop tôt. Parce que qu'est-ce qui lui arrive à ce pauvre petit remake? Bah, il est tout buggé, en fait, on n'arrive pas vraiment à y jouer. C'est mal fichu, c'est vraiment très très mal fichu. Et là où le bât blesse vraiment dans cette histoire, c'est que l'éditeur Microids, bah, il le savait ça. Ils le savaient, ils ont quand même sorti leur jeu complètement buggé. En se disant, c'est pas grave, on va lâcher un patch Day One et ça réglera les problèmes. Eh ben non, qu'est-ce qui se passe? Le jeu est sorti, le patch Day One, où est-ce qu'il est? Il est toujours pas là parce qu'ils ont des problèmes pour le faire. Et du coup, bah, les clients qui ont acheté le jeu, ils se retrouvent avec quoi? Avec un produit qui est pas fini, qui est tout buggé et qui est tout pourri en fait, du coup. Voilà. Donc oui, c'est vraiment nul. Donc Microids, ils sont bien gentils, ils s'excusent, ils nous font une jolie lettre. Hein. Nous pensions pouvoir proposer un patch au lancement, mais blablabla. Mais ils y sont pas arrivés. Donc bah, les mecs, la prochaine fois, vous sortez votre jeu fini, s'il vous plaît. Voilà. Parce que c'est bien sur le disque, là. Vous savez, le disque qu'on paye cher, qui prend de la place sur nos étagères. Bah, ce serait bien qu'il y ait le logiciel terminé, qu'on n'ait pas besoin de télécharger une mage. Voilà, c'est tout. Okay. Bisous.
Salut, hein, Johnny. Merci. Faut dire que le coronavirus n'a pas non plus beaucoup aidé cette année. On peut quand même au moins leur trouver cette excuse-là.
Ouais, mais bon, quand tu regardes une boîte comme, j'imagine, je sais pas moi, CyberConnect, qu'est-ce que je raconte? C'est des Project Red, pour ne citer que, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils retardent leur jeu, quoi. Pourquoi 13 n'est pas retardé? Je ne sais pas.
Ah bah, il y a peut-être des impératifs financiers, etc. On n'en sait rien, en fait.
Ouais, l'économie, quel monde de merde. Voilà.
Exactement. Bon, et bah écoutez, maintenant qu'on a fait le win et le fail, on va pouvoir passer... tous ces jeux de la semaine, tous ces jeux qui entrent dans le créneau des sorties, dans le créneau des lancements de la Xbox Series X et de la PS5 dont nous vous avons parlé la semaine dernière, un peu plus, on va dire, sur la partie aspect et interface. Maintenant, on va parler des jeux. Et pour commencer, on va commencer avec toi, Johnny, parce que... Tout simplement, il y a un jeu qui nous a fait frétiller depuis la première bande-annonce, forcément la cam de tout le monde. Ça l'est au moins pour les joueurs de Dark Souls et de Bloodborne. C'est Demon's Souls, premier.
Demon's Souls Remake, tout à fait.
Le premier sorti, donc là, sorti aux États-Unis, puisque nous, ça arrive le 19, sur
PS5. Nous, on l'a déjà depuis un petit moment. Hein.
Oui, mais bon, on n'a pas la console. Donc, voilà.
Ah bon, c'est vrai, on n'a pas la console, mince. Bah, mais comment on a fait pour y jouer alors?
Bah non, mais elle sort le 19 officiellement, tu te rappelles?
Ah, donc, c'est
sinon,
vrai.
Sinon, je ne parle pas de la rédac.
Chut. Voilà. Bref. Ok, ouais, donc voilà. Donc le remake de Demon's Souls, la grosse tête d'affiche en fait, en vrai, de PlayStation 5. C'est un peu tristoun d'ailleurs quand on se dit ça, parce qu'en gros, nos têtes d'affiche, c'est quoi? C'est Spider-Man, un DLC PS4, et Demon's Souls, un remake. Mais bon, le remake, spoiler, je vous le dis tout de suite, il est au niveau des plus grands remakes qu'on a vus dans le milieu du jeu vidéo. On en a un qui nous revient régulièrement en tête, c'est Resident Evil Rebirth. Bah là, on est sur quelque chose de ce niveau-là. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Le jeu d'origine, c'était une exclusivité PS3 qui était restée exclusive à la PS3. Donc là, ça va être vraiment que la deuxième fois qu'on va pouvoir y jouer. Et tout a été refait entièrement. Les modèles 3D, les éclairages, les graphismes, enfin voilà. Tout ça, ça a tout été refait. Et c'est sublime. Alors, les modèles 3D, ils sont vraiment assez fins. Les textures de près, ça se passe bien. Les effets de lumière, les effets de magie, de feu, tout ça, tout est magnifique. Voilà. Non, vraiment, graphiquement, on est sur quelque chose de très, très fou, avec une profondeur d'écran. Vraiment, on voit les châteaux au loin, très loin. Mmh. On a vraiment une super profondeur d'affichage. Et en plus, le tout est super fluide. Alors, super fluide, attention, si vous choisissez le mode performance. D'accord, il y a deux modes d'affichage. En performance, on est quasi à 60 fps tout le temps. Voilà, c'est ultra fluide, il n'y a pas un problème, rien. Techniquement, c'est vraiment une petite tuerie. Après, on peut choisir un autre mode qui s'appelle le mode cinématique. Voilà, il s'appelle cinématique. Alors, en cinématique, on a une résolution qui est plus élevée. Ça se voit, hein, à l'œil nu, ça se voit. Mm. Mais le framerate, c'est plus ça. Le framerate, on n'est même pas à 30, je pense. Et il se permet aussi le jeu dans ce mode-là des petites chutes. Donc ça, c'est assez dommage. Mais bon, le mode performance, il fait le boulot. On a un jeu qui est fluide, qui est beau de près, de loin, et avec des super effets de lumière. Non, franchement, techniquement, le remake, il est assez fou. Visuellement, on s'en prend plein la tronche. Le design a un peu changé.
Ah,
C'est plus tout à
c'est
fait
ce
le
que
même.
j'allais te dire. C'est que ce que j'allais te demander, c'est techniquement, ok, il y a un gros gap par rapport à l'original, mais est-ce que artistiquement, ça trahit un peu l'original ou
Non,
pas? Et est-ce que
artistiquement non, parce que les. Ouais, vas-y,
le
finis la
fait
question.
d'avoir tout retravaillé, ça change aussi en termes d'animation, parce que tu es obligé de tout
Ouais.
refaire, vraiment de tout. Est-ce que ça change aussi le feeling qu'on peut avoir? Est-ce qu'il peut y avoir des
Ouais,
changements au
ça
niveau de
va
l'IA?
changer.
Donc,
Oui. Alors, pas au niveau de l'IA. Ça, j'en parlerai après du gameplay. Mais en effet, au niveau du feeling, ça va changer deux, trois petits trucs. Donc, alors, attends, je reviens sur ta première question. Ah, j'ai un trou.
artistiquement, est-ce que c'est quelque chose
Artistiquement.
de
En
qui
termes de
baisse?
design, c'est différent, mais c'est un peu plus réaliste. Mais du coup, tant mieux, en fait, en vrai. C'est plus beau. Voilà. Dans Dark Souls, on ne pouvait jamais se créer un joli héros. On n'avait que des héros qui étaient trop moches parce que l'éditeur de perso était pourri. Là, on retrouve enfin un éditeur de perso assez stylé au niveau de ce qu'on pourrait trouver dans un Skyrim ou un Fallout, par exemple. Voilà. L'éditeur de perso est bien et on peut se faire un joli héros, une belle personne. Et si notre héros est moche, c'est parce qu'on l'a voulu, cette fois-ci. C'est pas. Voilà. Donc non, en termes de design, moi j'ai trouvé ça plutôt cool. Ça reste très fidèle. Hein. S'il y avait une herbe au sol ou une épée plantée dans le mur, il y aura l'herbe au sol encore ou l'épée plantée dans le mur à cet endroit-là. Là-dessus, on ne change pas. Et en termes de couleurs et tout aussi, ça marche vraiment pas mal et ça reste plutôt joli. Après, ce remake-là, le fait d'avoir refait tous les modèles 3D, d'avoir tout réanimé, etc., ça crée un truc par rapport au jeu d'origine. En termes de feeling notamment, c'est dans les déplacements. Je trouve que les hitbox sont gérés différemment. Par exemple, dans un Souls, quand tu viens de te faire tuer contre un boss, quel est le premier truc que tu cherches à faire? Courir le plus vite possible pour retourner te battre contre le boss. Bah là, malheureusement, c'est un peu plus compliqué parce que tu as du mal à esquiver les ennemis dans les couloirs. S'il y a deux mobs dans le couloir, ils vont te coincer contre le mur, tu vas plus pouvoir bouger, tu vas plus pouvoir faire d'esquive, tu vas plus pouvoir rien faire. Ce qui n'était pas forcément le cas dans le Demon's Souls original qui était un peu moins rigide à ce niveau-là. Voilà. Donc des hitbox un tout petit peu pété, au niveau du feeling, ça change un tout petit peu. Mais c'est vraiment la seule chose qui va changer. Parce qu'en termes de gameplay, c'est identique. C'est la même formule. Exactement la même formule. Du coup, elle a ses défauts, elle a ses avantages. Alors, ses avantages, c'est que c'est peut-être le Souls le plus dur de tous, en fait, en vrai. Et le fait que ce soit le Souls le plus dur de tous, bah, ça aussi va être un inconvénient, en fait. Il y a certaines mécaniques qui sont un peu mal foutues dans celui-là. Donc, un Souls, qu'est-ce que c'est? C'est un RPG d'action ultra difficile où on vous dit rien, on vous laisse vous débrouiller. Là, c'est toujours la même chose. Ici, vous avez le Nexus central qui va vous emmener dans 5 niveaux différents. Vous pouvez les visiter dans l'ordre que vous voulez, sans qu'on vous dise trop quoi faire. Voilà. Vous allez dans ces niveaux vous battre avec vos armes, avec de la magie à distance si vous êtes un magicien, avec une arme de corps à corps. Enfin voilà, ça après ça va être selon la façon dont vous allez créer votre personnage puisque l'aspect RPG lui il est toujours super 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 développé. Voilà. Et au niveau action, bah, ça fonctionne bien, hein. Ça fonctionne toujours bien. On a toujours ce même feeling un petit peu à la Souls, mais avec quelques petites mécaniques qui moi me font un peu pester. Donc des mécaniques qu'il y avait dans le Demon's Souls original qui sont restées, on aurait peut-être pu les changer celles-là. Et la première, moi, c'est les herbes pour se soigner. C'est-à-dire que pour se soigner dans ce Souls-là, c'est des herbes. Les herbes, on les drop où? On les drop sur les ennemis, on peut les acheter chez le marchand. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on vient de découvrir un boss, on avait nos 30 herbes au début du combat, on s'est fait tout le run, on a épuisé nos 30 herbes, mais on n'a pas réussi à le tuer, on s'est fait avoir au dernier moment. Bah, qu'est-ce qu'on doit faire avant de retourner battre ce boss-là? C'est pas juste on retourne au feu et notre fiole d'astuce s'est rechargée. Non, il faut aller farmer les herbes. Donc on va aller se charger un petit coin de la map. On va le lancer 10 fois. Là, il y en a un, notamment au début du niveau 1-3. On retourne un tout petit peu en arrière. Il y a deux chevaliers aux yeux bleus. Les deux vont donner 2 herbes chacun. Voilà, on fait ça une quinzaine de fois. Et c'est bon, on a re-rempli notre réserve d'herbes. Moi, c'est une mécanique que je trouve un peu relou, qui avait disparu dans la suite des Souls, grâce à la fiole d'astuce. Quitte à faire un remake, c'est vrai qu'on a voulu le rendre le plus fidèle possible. Mais bon, moi, j'aurais pas gueulé qu'on m'ait mis une fiole d'astuce à la place des herbes. Ça, c'est le premier truc. L'autre petit reproche éventuellement qu'on peut faire à ce Souls en tant que Souls par rapport au reste de la production, parce que bon, c'est le premier, il y en a eu combien des jeux derrière? 6 ou 7, hein. Donc la formule, elle a eu le temps d'évoluer. Et là, moi, que je reproche un peu, c'est ok, le remake est génial en termes graphiques, mais en termes de gameplay, bah, ça reste encore une fois exactement le même. Donc là, bon, c'est pas vraiment quelque chose sur lequel on aurait pu faire, mais en termes de level design, comme je vous l'ai expliqué, Demon's Souls, c'est le Nexus, c'est un niveau central. Et à partir de ce niveau central, tu vas explorer 5 niveaux qui sont tous plus ou moins des couloirs. Donc le jeu, même si c'est vrai qu'il te laisse un peu de liberté d'aller explorer les trucs dans l'ordre dans lequel tu veux, il reste tout de même vachement plus linéaire qu'un Dark Souls ou qu'un Bloodborne, par exemple. On va vraiment plutôt tout le temps en ligne droite. Voilà. Donc, moi, ce que je peux vous en dire de... Ah tiens, si je peux aussi vous parler des petites spécificités PS5 de la machine, du jeu. On a des retours... Ouais, voilà. Donc, les retours haptiques, c'est cool. Franchement, c'est même génial. Les vibrations de la manette, elles enterrent tout ce qu'on a pu connaître jusqu'à présent avec les vibrations HD de la Switch, par exemple. Mm-hmm. Si on prend les vibrations HD de Dark Souls sur Nintendo Switch, celles de Demon's Souls sur PS5, elles les enterrent. Voilà, vraiment, les vibrations haptiques, c'est super classe. Un autre truc qui est très bien géré, c'est le son du micro de la manette. Enfin, il aurait fallu attendre toute une génération pour que ce soit enfin géré, ce truc-là. Au final, finalement, c'est le premier jeu de la PS5 qui le fait très bien. Donc, les sons, ils soulignent vraiment tout ce qui se passe dans le jeu. Que ce soit un coup d'épée, un bout de caisse détruite, une magie lancée, une porte qui s'ouvre, un pas sur le sol. Tout ça, on va le retrouver sur le petit micro de la manette et ça participe franchement à l'immersion. Par contre, il y a un truc qu'on a un peu regretté là-dessus, c'est l'absence des gâchettes adaptatives. Elles servent à que dalle, elles servent vraiment à rien. Pourtant, il y a un arc hein, dans le jeu, on aurait pu résister au moment de tirer la flèche, bah ça, ils l'ont pas fait. C'est assez bizarre pour un jeu de lancement en plus de la PlayStation qui serait censé un petit peu nous montrer toutes ces fonctions-là. Voilà.
Ok.
Donc,
est-ce que c'est vraiment le jeu sur lequel il faut se diriger si on a la chance d'avoir une PS5 et que on est intéressé par un jeu à la Dark Souls, quoi, tout simplement.
Ouais, je pense que si on n'est pas trop... Alors, je pense que si on vient de s'acheter une PS5, pour moi, c'est le killer app. C'est le jeu qui pourrait faire vendre la machine. Même si vous n'êtes pas très Souls à la base, c'est peut-être le moment de s'y mettre, hein. En sachant quand même que c'est peut-être un des moins accueillants de tous, hein. C'est peut-être même un des plus durs. Donc si vous arrivez à finir celui-là, vous serez lancé sur la suite Dark Souls, Bloodborne, il n'y aura plus aucun problème. Qu'est-ce que je peux dire d'autre?
Je crois que t'as tout dit, hein. Ça a l'air,
j'ai tout dit, j'ai tout dit. Je vais faire un tout petit résumé. Mais c'est graphiquement, en termes de remake, c'est extraordinaire. En termes de gameplay, moi je suis pas fan du parti pris d'avoir gardé le jeu à l'identique. J'aurais bien aimé quelques petites modifications. Par exemple, on nous a enlevé le glitch. Si on nous a enlevé le glitch de multiplication des objets, pourquoi ne pas nous avoir mis une fiole d'astuces en échange? Enfin bon, bref, on aurait pu faire quelques petites modifications. Je chipote. Et en termes de Dark Souls, selon moi, et là encore une fois, c'est mon avis, c'est pas le meilleur. Moi, je pense que Dark Souls, c'est bien, bien, bien meilleur que Demon's Souls, par exemple. Même Bloodborne, selon moi, est bien meilleur que Demon's Souls. Mais en termes graphiques, en termes de remake, ça reste exceptionnel. Et si vous venez de vous acheter une PS5, franchement, je pense que c'est le jeu qu'il faut avoir.
Bon, voilà. Très bien. Bah, merci, Johnny.
De rien.
On va pas donner la note tout de suite, si, allez, tu la veux.
C'est un 8 indispensable.
Ah, voilà. Ok. Bon, bah, ça fait encore une...
Excellent.
C'est vraiment encore un bon petit jeu pour la PS5 pour son lancement.
Exactement.
Donc, on vous avait déjà parlé de Sackboy. Et dans quelques instants, on va vous parler de Miles Morales parce que Alix est arrivé. Ça y est, il est avec nous.
Alix est arrivé, mais Johnny Wan va s'en aller. Hein.
Comme les deux ne peuvent pas être en même temps dans la même pièce.
Non, en fait, on ne peut pas se blairer.
Voilà, exactement. Il ne peut pas y avoir deux personnes ultra bavardes en même temps dans la même pièce parce que sinon,
sérieux,
ça s'annule.
Vous avez fait venir... Ah, moi, je m'en vais, je me casse. Allez.
Oh là là. Bon, bah écoute, bonne heure de call, Johnny.
C'est une blague.
À très bientôt.
Ouais, merci beaucoup. Allez. Eh bien, écoutez, les gars, à bientôt et puis à plus. Ouais. Et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.
Ciao, Johnny. Alors, n'oublie pas de couper hein, quand même parce qu'on ne sait jamais. On ne va pas t'entendre aller aux toilettes ou des trucs comme ça. Donc voilà, est-ce qu'il va couper? Il a coupé, c'est bon. Bon, bah, bienvenue Alix. Merci de t'avoir rejoint, d'avoir trouvé un trou dans ton emploi du temps. qui, on le sait, est toujours très très chargé. Alors, Alix, tu ne vas pas parler tout de suite, mais on est content de t'avoir quand même avec nous. Puisque d'abord, avant qu'on parle de Miles Morales et de NBA 2K21 avec toi, mais NBA 2K21 sur Next Gen, attention, on va parler de l'autre gros jeu de cette semaine, évidemment, c'est Call of Duty, Black Ops Cold War, Rami. Call of Duty, Black Ops Cold War, c'est totalement ta cam. C'est toi qui nous as fait le test. Je crois que Alix, t'aimes bien aussi un petit peu Call of Duty.
Hein. Ouais, j'avais fait le test de Modern Warfare, moi, l'année dernière.
Donc, d'accord. Donc, c'était un petit peu ton truc. T'as pas eu l'occasion encore d'y jouer à celui-là.
À Cold War, j'ai le jeu depuis quelques heures. Je l'ai téléchargé, mais j'ai pas encore le temps d'y jouer.
Bon, alors, nous n'aurons donc pas ton avis dessus. Rami, Black Ops Cold War, donc, c'est le nouvel épisode de la série Black Ops de Call of Duty. Donc voilà, après un Black Ops 4 qui n'avait pas de campagne solo, rappelons-le quand même, c'était un de ses gros points noirs, même si le multi était très bon et a été joué pendant un bon moment. Ce Call of Duty, Rami, qui est sorti il y a quelques jours et qui est déjà vanté par Activision comme celui qui casse tous les records, meilleur lancement, etc., comme à peu près tous les ans, qu'est-ce que tu en as pensé ?
Eh bien, c'était bof, bonne journée. Non.
Voilà, au moins comme ça, c'est réglé.
Non, bah, tout d'abord, bah, pour parler un peu du solo, bah, le jeu nous prend plus en pleine guerre froide, et plus précisément dans les années 80, sous l'ère Reagan. On intègre un commando international avec la crème, le CIA, le MI6, le KGB, etc. On y retrouve tous les personnages du premier opus. Mm-hmm. Ce volet, en fait, il se veut plus être une suite que davantage un remake. En fait, ça reprend la même formule que Modern Warfare. On va reprendre les mêmes personnages et les placer dans un contexte un peu différent. Donc là, on a Mason, Woods, Hudson et un nouveau venu qui est le chef un peu du groupe. On a la personne de Russell Adler qui est un sosie non officiel de Robert Redford. Pour le solo en lui-même, bah, en fait, il y a de bonnes idées avec des zones un peu plus ouvertes à certains endroits et des objectifs secondaires à remplir ou non. On a deux quêtes secondaires dans le jeu qui sont plutôt anecdotiques. Ça demande un peu de réflexion, mais sans non plus changer le cours de l'intrigue. Mmh. En fait, le titre, il se fait surtout dans la veine de Black Ops 2, c'est-à-dire avec des choix à faire à un certain moment dans la campagne et des fins multiples. Il y a une fin surprenante et il y a une fin, la meilleure fin qui est une fin bâclée, qui donne la sensation un peu globale dans la globalité de la campagne d'un jeu un peu rushé. Ça manque d'enjeu dans le scénario, je trouve, et tout est expédié un peu trop rapidement. En plus, on n'a même pas le temps de s'attacher au nouveau personnage, que ce soit Lazare ou Park.
Mais c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en plus, visiblement, d'après ce que tu nous as dit, c'est que la campagne solo est très courte.
Ah ouais, elle est vraiment très très courte. Enfin, c'est en ligne droite, tu peux vraiment le faire en 3 heures. Moi, je l'ai fait en vétéran. En 3-4 heures, ça pouvait être torché sans la quête secondaire qui me prenait une heure de plus.
C'est scandaleux.
C'est un scandale. Mais oui, il y a l'impression de, voilà, ils ont juste rempli un cahier des charges, ils se sont dit hop, il faut un solo, on met quelques trucs, et puis voilà quoi. Mais ouais, c'est un peu dommage de ce côté-là. Après, il y a quand même des bonnes choses dans le solo, il y a l'ambiance des années 80, les musiques sont assez cool, il y a le côté James Bond avec les phases d'infiltration, ça rappelle un peu GoldenEye où tu n'es pas joué. Il y a des phases d'action qui se la jouent un peu Atomic Blonde, ça c'est plutôt cool à certains instants. En plus, le jeu nous fait voyager, que ce soit à Berlin, en Ukraine ou encore au Vietnam, avec des passages plutôt cool. Mm-hmm. Mais dans l'ensemble, ouais, y a un sentiment de gâchis, y a un sentiment d'enjeux qui sont un peu bâclés. Le grand méchant du jeu qui nous est présenté, qui est Perseus, qui est un ancien agent du KGB qui veut détruire le monde avec des têtes nucléaires disséminées un peu partout dans le globe. On nous le présente un peu, on le voit une fois, et puis après... Sans plus, quoi, ça se bâcle sur la fin et avec un petit twist, parce que un petit twist à la Black Ops, mais sans non plus changer quoi que ce soit. Quoi.
Ok, bah alors du coup, quand même, en termes de sensations et surtout côté multi, puisque c'est là de ce côté-là que le jeu va durer, on va dire, sur l'année qui vient, parce que maintenant, ça y est, on oublie Modern Warfare, on passe officiellement à celui-là. Est-ce que ça se tient bien quand même? Est-ce que... On peut se dire que la saison va être bonne.
Alors la saison va être bonne. Non, la saison va être plutôt compliquée.
Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe?
En fait, il y a un gameplay solide avec un gameplay solide et dynamique qui est repris un peu des anciens Black Ops, de Black Ops 3 à Black Ops 4. Ça, on peut pas le nier. Treyarch a quand même un savoir-faire sur les Call of Duty. Mm-hmm. Ils reviennent un peu à l'ancienne avec. Des maps avec un level design à trois endroits, c'est-à-dire un côté gauche, un côté droit et un mid pour pouvoir s'affronter. Mm-hmm. Ça, vraiment, c'est plutôt appréciable. Là où Modern Warfare, dans son multi, t'offrait plutôt des maps parfois gigantesques où tu prenais du temps à pouvoir rallier certains points et trouver des ennemis. Par contre, là où le bas blesse, c'est qu'il n'y a que 8 maps, dont 3-4 qui étaient déjà dans la bêta, donc on avait déjà fait quasiment le tour de la moitié des maps dans la bêta, dont 3 aussi qui sont totalement ratées en termes de level design, qui offrent trop de points d'ouverture, c'est-à-dire où il y a plein de points où on peut camper avec son arme et tirer sur tout le monde sans être inquiété. Dans le rayon des autres points négatifs, on a le manque d'association avec les armes, on a l'impression d'être dans un stand de airsoft plus que sur une bataille entre deux camps. Le manque de recul aussi sur les armes avec la M16 par exemple qui va être complètement laser. C'est clairement la M16, c'est le meilleur sniper du jeu. Hein. C'est terrible de dire
mais ça. Mais c'est une mitraillette la M16, enfin, c'est un mitrailleur lourd si je ne m'abuse, non ?
Oui, c'est un fusil tactique. Fusil tactique, AR, fusil tactique, oui. Ouais. Et en fait, c'est pas censé être un sniper. Clairement, les snipers dans le jeu sont totalement foirés, ça, on peut se le dire. Il y a un équilibrage totalement aussi aberrant sur certaines des armes. Clairement, on peut le voir sur le multijoueur. Tout le monde joue à la MP5 parce que clairement, on peut tirer de loin, on peut tout faire avec. C'est une arme multifonction. C'est clairement un peu abusé. Et l'une des choses aussi sur laquelle se plaignent la communauté, que ce soit les streamers ou même les joueurs de manière générale, c'est le skill-based matchmaking, le fait de classer les joueurs suivant leur niveau. Et par exemple, si je fais 5 bonnes parties, il va me mettre avec des joueurs qui vont être un peu très bons. Et en fait, je vais passer quasiment ma journée à l'impression de jouer la Ligue des Champions avec des mecs qui suent et des tryharders de l'enfer. Donc ça, c'est ce qu'on reproche au jeu, en fait, qu'il aurait fallu, c'est, je pense, un matchmaking avec du classé et du pas classé pour pouvoir s'amuser ou voilà, si on a envie de suer pendant 2-3 parties, c'est possible. Donc, ce multijoueur-là, je pense pas qu'il va clairement attirer les foules. Je pense comme Modern Warfare, ça va être le Warzone qui va tout sauver s'il se foire pas sur le Warzone à venir, parce que pour le Warzone, ils vont ajouter aussi les armes de Call of Duty Black Ops Cold War, et il faudra voir aussi sur l'équilibrage de ces dernières pour voir ce que ça donne. Savoir s'il n'y aura pas un déséquilibre entre un Modern Warfare et un Black Ops Cold War.
Okay.
Après, il reste aussi le mode zombie qui est plutôt cool. Voilà, des vagues d'ennemis successives, comme on a l'habitude. J'ai pu y jouer à 4 avec des amis. On a passé du bon temps. C'était vraiment intéressant. Et bon, comme le multijoueur, là aussi, ça manque de contenu en termes de map. Il n'y en a qu'une seule, voire deux si on en veut vers le mode Dead Ops. Mais bon, c'est assez famélique.
D'accord. Et on n'a pas parlé de la technique, parce que toi, tu y as joué sur PS4, si je ne m'abuse.
Ouais.
Déjà, sur PS4, est-ce que ça tient la route? Mais je crois que tu as eu l'occasion... Ah. Et tu as eu l'occasion d'y jouer aussi sur une bécane un peu plus... Ouais. Sur un gros PC, ne m'abuse. Quand on y joue sur PS4, tu dis donc que ça ne tient pas forcément la route.
Non, ça tient... Enfin, le mode campagne, c'est la première fois, franchement, c'est la première fois de ma vie que je vois des campagnes, des cinématiques qui rament. Enfin, il y a des baisses de framerate sur des cinématiques, j'avais jamais vu ça. Mmh. Et clairement, c'est pas un jeu fait pour la génération PS4 Xbox. Techniquement, c'est vraiment pas fou du tout. Ça a tendance à ramer par moment, c'est un peu dans la difficulté. Que ce soit les modèles des personnages, il y a des choses, ça fait un peu décoller la rétine tellement c'est un peu violent. Et à contrario, sur un PC de compète, c'est vraiment super beau une fois qu'on a le RTX, le ray tracing d'activer, c'est une autre paire de manches. Mmh. Et là, on sent vraiment que le jeu il a été pensé pour vraiment la next gen et les PC un peu qui tiennent la route. Donc si vous pouvez le faire sur PS5, Xbox Series X ou PC, clairement c'est là-dessus qu'il faut.
D'accord. Donc, si j'ai bien compris, c'est un peu une déception quand même, ce Call of Duty. Comparé à l'année dernière où Modern Warfare, lui, avait été super bien accueilli. Super bien. Plutôt bien accueilli.
Bah oui, c'est une déception parce qu'en fait, on pensait retrouver. On se disait Black Ops, c'est quand même. C'est un peu la hors série des Call of Duty. On se disait, on va retrouver en plus Mason, Woods, les gros persos. Un multi qui va être dynamique. Vraiment dynamique avec avec un multi qui est vraiment centré à l'ancienne, Call of Duty très à l'ancienne, avec des armes qui sont pas non plus surcheatées pour quelques-unes, avec un système de matchmaking plutôt cool, s'éloignant un peu de ce que fait Infinity Ward, et en fait pas du tout, ça reste dans les travées de ce qui a été entamé l'année dernière en poussant un peu. Il y a l'impression que le Covid, peut-être que le Covid est passé par là et qu'ils n'ont pas eu trop eu le temps de bien un peu mettre les de bien régler un peu le jeu. de bien finir un peu là-dessus, quoi. Enfin, même si, voilà, ça manque de map, le multijoueur, même s'il y a de bonnes bases, c'est quand même un peu compliqué. Donc, ouais, c'est... Il y a une petite pointe de déception sur, pour cette année.
Bon, peut-être que les saisons à venir et les mises à jour changeront certaines choses, on verra.
Oui. Bah, il y a Nuketam qui doit arriver d'ici 2 semaines. Donc, bon, je vais pas... j'adore Nuketam, hein, mais on l'a mangé à toutes les sauces. On a
eu, j'allais dire, c'est quand j'ai joué au premier Black Ops que, j'allais sur Nuketam, moi. Donc,
On a eu Nuketam, premier du nom, on a eu Nuketam 2099, Nuketam à la Bolognaise, Nuketam à la Pizza, enfin, à Pouille, quoi. Donc, ouais, c'est un peu compliqué. Mais clairement, la roadmap, s'ils font comme l'année dernière, je pense qu'il y a moyen de s'amuser. Mais en attendant, entre maintenant et le 10 décembre, je pense qu'on va un peu s'ennuyer sur les 8 maps qu'ils nous ont fournies. Donc, mais bon, voilà, ça fait comme l'année dernière, clairement, la roadmap va être intéressante.
Ok, bon, bah on surveillera effectivement la feuille de route. Alors, on rappelle que tu lui as mis la magnifique note de 6. Voilà, c'est malheureusement juste satisfaisant pour Call of Duty Black Ops Cold War, une guerre froide qui sent le réchauffer. Voilà, c'est ainsi que ça se passe pour Black Ops Cold War. Merci Rami. On va finir avec trois jeux dont deux pour Alix. On va commencer avec Miles Morales. Alix, Spider-Man Miles Morales, donc le test est en ligne depuis un moment, ça faisait partie des premiers tests qu'on avait mis en ligne pour la PS5, mais on n'avait pas eu l'occasion d'en parler ici, dans c'est le podcast. Vrai. Alors, Miles Morales, donc, qui est la suite directe du Marvel Spider-Man de la PS4, qui lui-même est d'ailleurs disponible en version remasterisée quand on achète Miles Morales. Encore une sacrée histoire, tout ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet épisode qu'on a d'abord pris pour un spin-off, puis en fait, non, en fait c'est bien une aventure complète avec le petit Miles Morales, donc, qui est le chouchou des fans de Spider-Man depuis un moment, et notamment grâce à Spider-Verse.
Eh ben, ce que je peux en dire, c'est que à la base, j'en attendais rien du tout de Miles Morales. J'étais plutôt même parti dans la politique de l'escroquerie. Honnêtement, on va se parler franchement en me disant voilà, Miles Morales, ça sent bon le vieux DLC, pas très long, très court, pas forcément très poussé, très scénarisé, etc. Et en fait, l'agréable surprise, c'est que c'est beaucoup mieux qu'un DLC. C'est pas un jeu complet, hein, parce que en réalité, comme je l'ai dit dans le test, on est sur une extension de ce que Marvel Spider-Man nous a proposé il y a 2 ans, en fait. Voilà, on retrouve Manhattan, on retrouve Peter Parker, du coup, qui a changé. On rappelle qu'il a été totalement relooké. On retrouve la voix de Donald Renew national, évidemment. Puis voilà, on retrouve un petit peu tout l'univers de Spider-Man. On retrouve donc Miles, qu'on avait vu un petit peu dans Marvel Spider-Man. Et pourquoi je parle d'extension, c'est parce que, pour le coup, c'est pour ceux qui ont aimé, comme moi, Marvel Spider-Man, au bout de quelques minutes de jeu, on retrouve toutes les mécaniques et les sensations qu'on avait il y a 2 ans auparavant dans un univers qui a quand même pas véritablement changé en termes de construction, par contre qui a pris un gros gap graphique, puisqu'on est, on est sur PS5. Et clairement, déjà Marvel Spider-Man sur PS4, c'était quelque chose en termes de technique et de qualité graphique. On était sur quelque chose d'extrêmement qualitatif. Moi, j'ai pris une claque dans ma tronche. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que tu disais qu'on va parler de jeux. On parlera de NBA 2K21 un peu plus tard, qui est censé être une grosse claque graphique. Mais j'ai plus pris ma tronche, sans trop spoiler mon avis sur NBA 2K, avec Marvel Spider-Man, qu'avec le jeu de Visual Concept. Pour le coup, je me suis jamais dit « Oh, ça va être incroyable !» Et honnêtement, en termes de détails, c'est magnifique. La mise en scène, je suis obligé, quand je parle de Miles Morales, de forcément comparer avec le jeu de base, hein, Marvel Spider-Man.
Bien sûr.
La mise en scène, Marvel Spider-Man était déjà quelque chose, mais moi je me rappelle que les cinématiques étaient particulièrement chiantes parfois. C'est vrai que c'était long, blablabla, et on pouvait pas forcément, fallait pas forcément les zapper puisque c'était important pour l'histoire. Là, on sent déjà qu'en termes de dialogue, d'écriture de dialogue, on a compris la leçon chez Insomniac Games. Puis même en termes de mise en scène, je peux pas trop donner des détails, mais je peux redire ce que j'ai dit à un moment donné dans le test, c'est que vous avez un dîner de Thanksgiving et vous allez devoir vous trouver à jouer les acrobates pour remettre le courant dans le quartier, et c'est plutôt bien fichu, en fait. C'est on est à la fois presque devant un film tellement c'est beau, mais en même temps on n'est pas passif, on est acteur. Donc grosse claque graphique. Techniquement, évidemment, on a deux modes dans le jeu. le mode fidélité et le mode performance. Donc fidélité, c'est 30 FPS ray tracing, et le mode performance, c'est 60 FPS. Bon, évidemment, déjà le jeu de base en mode fidélité est déjà très beau, mais c'est encore un cap supplémentaire en mode performance, puisque le jeu est d'une fluidité absolument absolue, d'une netteté incroyable. Donc ça, honnêtement, ça c'est les premières choses qui m'ont marqué lorsque j'ai fait Miles Morales sur PS5, c'est la qualité graphique, c'est la qualité de la mise en scène. Techniquement, c'est somptueux, et surtout, après, on retrouve exactement le même jeu qu'on a quitté il y a 2 ans. C'est-à-dire que, on
rappelle. C'est ce que j'allais dire. En termes de sensations, en termes de jeu, ça reste le même Spider-Man, plus ou moins.
Bah, Insomniac a repris exactement ce qu'ils ont fait avec le jeu de base avec Peter Parker, c'est le même gameplay, sauf que Miles bouge différemment. C'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu groovy qui se ressent déjà dans la bande-son, qui se sent aussi dans son déhanché, dans sa manière de se déplacer. On rappelle que Miles a la bioélectricité qui lui permet en fait de concentrer l'énergie statique dans ses points. Il a aussi le camouflage, il a des pouvoirs. En fait, l'araignée qu'il a mordue était différente de celle de Peter, donc il a des pouvoirs qui vont influer sur le gameplay. Alors après, je suis un peu partagé sur cette partie-là, parce que ça influe, mais sans trop influer non plus. Le camouflage, c'est top, parce que pour une fois, dans Marvel Spider-Man, ben, le côté un petit peu infiltration, ça veut dire quelque chose. Après, on retrouve les mêmes séquences qu'on avait avec le Batman de Rocksteady, qu'on avait déjà un peu dans Marvel Spider-Man, que je trouvais pas hyper bien fichu, là, qui sont beaucoup mieux faites. C'est-à-dire les fameuses séquences, on arrive dans une zone fermée, il faut dégommer évidemment tous les ennemis armés. Évidemment, il y a des ennemis qui peuvent avoir des capteurs de chaleur pour éventuellement capter votre présence malgré l'invisibilité. Donc ça, c'est plutôt bien fichu, c'est plutôt top. Après, ça reste du somme-toute classique, on n'est pas dépaysé, il y a des mouvements supplémentaires, il n'y a pas énormément de combos de combat en plus. Donc voilà, comme je vous ai dit, on a laissé Marvel Spider-Man il y a 2 ans, on le retrouve avec un personnage plus haut en couleur, mais avec quasiment les mêmes mécaniques de jeu.
Et tu parlais de la BO tout à l'heure, on peut signaler que dans la BO, il y a le nouveau morceau de Jaden Smith, dont le clip a été est composé uniquement d'images de Spider-Man Miles Morales. Après, la qualité de la chanson, ça c'est une autre histoire. Personnellement, je ne suis absolument pas client du tout. Mais la BO en elle-même...
Ouais, la BO en voix, elle correspond à l'univers de Miles, qui est donc on est à Harlem, hein, donc voilà, on revendique à mort le côté Harlem durant toute la campagne du jeu. D'ailleurs, c'est l'occasion de dire que le scénar, alors, est pas fou, mais il se tient. En plus, il y a des petits moments d'émotion pour peu qu'on ait un petit cœur et qu'on aime bien un petit peu, on soit habitué au scénario de comics, ça va en soi, ça passe, c'est mignon. Après, et c'est là où je suis obligé de parler un petit peu des mauvais points de Miles Morales, il y a le même défaut que pour Marvel Spider-Man, c'est que certains ennemis manquent cruellement de charisme. On a, je vous la fais courte pour le pitch, mais en gros, Miles se retrouve à Harlem entre deux factions, c'est-à-dire une société qui veut faire du fric avec de l'énergie et une société un peu underground qui s'appelle l'Underground justement, qui veut un petit peu faire tomber tout ça et récupérer cette technologie pour en faire d'autres choses. Les deux coms ont clairement de charisme. Honnêtement, ça vaut pas les plus grands méchants iconiques de Spider-Man. C'est là où je pense qu'Insomniac a été un petit peu feignant, dans le sens, ils ont pas voulu trop en mettre, ils auraient dû. Je pense que on est sur une nouvelle génération, c'est la suite directe de Marvel Spider-Man, c'est le premier gros jeu AAA de la console. Il fallait envoyer du bois. Alors oui, on a le costume Spider-Verse.
C'est ce que j'allais te demander, c'est peut-être parce que ils ont peut-être pas conscience que Miles Morales, de manière générale, a peut-être une popularité qui a dépassé celle de Peter Parker.
Je sais pas, parce que en fait, si t'as misé sur le titre et tu l'as mis en jaquette, parce que l'avoir dans Marvel Spider-Man en deuxième personnage secondaire, ça aurait pu tenir la route, t'aurais pu repartir avec Peter Parker. Là, ils ont fait le choix chez Insomniac et chez Sony de mettre en avant Miles Morales. Quand on voit en plus, je suis moyennement d'accord avec cette théorie, parce que quand tu vois ce qu'il y a eu avec Spider-Man Génération, le succès que ça a eu autour du personnage, je pense honnêtement que c'est pas possible que chez Insomniac, ils n'aient pas pu se rendre compte de la popularité.
Ouais, mais bien sûr, mais peut-être qu'ils se sont dit, bon, bah, pour lui, on va faire autre chose, parce que si on commence à aller rechercher tous les méchants qu'on a mis dans le Marvel Spider-Man original, parce qu'il y a quand même, si je ne dis pas de bêtises, il y a Octopus, il y a Frisk. Oui. J'ai pas regardé la suite, je la connais plus, mais bon, bref, il y en a quelques-uns
qu'on retrouve dans Miles Morales, du coup.
Peut-être qu'ils n'avaient pas forcément non plus le temps de mettre les méchants, de mettre des méchants, on va dire qu'on a déjà vu auparavant et ou qu'on n'aurait pas encore affronté dans l'original, et peut-être qu'ils se sont dit, en attendant d'avoir un deuxième épisode de Marvel Spider-Man, ça se trouve qu'il sera avec Miles Morales aussi.
Ah bah, de toute façon, comme je l'ai dit en préambule de pour ce qu'on a parlé de Miles Morales, pour moi c'est clairement un peu comme pour NBA 2K quand j'en parlais tout à l'heure, c'est un peu une manière de se mettre de dire voilà, la next gen avec Spider-Man, ce sera ça. En gros, on pose les bases de quelque chose qui sera forcément plus grand. Je l'espère, enfin, même pour la discuter avec plein de monde autour, je pense qu'on est tous persuadés, vu les bases solides que le jeu installe. Le gameplay, il n'y a plus besoin d'y toucher. Le personnage, il est là, c'est top. Les tenues, je disais, donc la fameuse tenue de Spider-Man Génération qu'on peut débloquer, c'est super top. En plus, on a la même sensation, même rendu graphique que dans le film d'animation.
Ouais, avec les animations un peu saccadées voilà, et tout. Saccadées.
Alors c'est sympa 2 minutes hein, par contre, mais au bout d'un moment ça fait un petit peu mal aux yeux. Mais par contre ouais, ce qui manque c'est aujourd'hui on veut des, enfin voilà, l'univers de Miles Morales est suffisamment riche, je pense. Peter Parker Spider-Man est suffisamment riche aujourd'hui pour pouvoir nous proposer des méchants soit iconiques, soit des anciens, soit des nouveaux, en tout cas beaucoup mieux que ce qu'ils nous ont proposé là. N'empêche que pour moi d'ores et déjà, même si la campagne ne dure que 10 heures, la campagne, c'est parce que j'écoutais Rami parler de Cold War, ça. le scénario de Miles Morales, c'est 10 grosses heures, ou 10 petites heures, selon comment on joue, quand on suit l'intrigue principale. Il faut compter 15-20 avec toutes les missions secondaires, si on a envie de les faire. Voilà, moi, j'avais de mémoire, oui, c'est même pas de mémoire, j'ai mis la note de 8 sur 10, j'ai dit que c'était un indispensable pour la rédaction de Gameblog et pour la PS5, parce que c'est tout simplement un très bon prometteur triple A. Voilà, je ne peux pas en dire plus.
Ok, bon, très bien pour Miles Morales. Donc, on va faire une petite parenthèse avant de passer à NBA 2K21. Mm-hmm. C'est moi qui vais vous parler de Bucksnax. Alors, Bucksnax, c'était la surprise de la première présentation des jeux PS5 cet été. Personne n'a trop compris ce que c'était. Où on voyait des espèces de morses... de morses anthropomorphes avancer et manger des bestioles moitié insectes, moitié junk food. Donc, on se demandait qu'est-ce que c'est que ce truc. Et puis, il y a eu la chanson titre Bucksnax qui est commencé à rentrer dans toutes les têtes. Mais ça ne disait pas trop ce qu'était le jeu, s'il allait être bien, parce qu'on savait que derrière, il y avait le studio Young Horses qui on doit Octodad, qui est selon moi un jeu, ok, il est fou, hein, le jeu, et c'est vraiment drôle, mais à jouer, c'est une plaie, et j'ai du mal à comprendre qu'on aime vraiment ce jeu pour les sensations qu'il peut procurer, à quel point il est frustrant d'y jouer. Donc c'était il y avait un peu des craintes par rapport à ce jeu, et puis bah, finalement, c'est un des jeux de lancement aussi de la PS5. Il est offert avec le PlayStation Plus. Il est disponible aussi sur PC. C'est là-dessus que j'y ai joué. Et finalement, bah c'est un bon petit jeu, voire un super jeu, si on prend le temps de se mettre dessus. Alors, ça raconte quoi ? Ça raconte l'histoire d'une journaliste qui va être dépêchée sur une île où, eh bien justement, on vient de faire une découverte incroyable. Ce sont les Bucksnax, ces insectes mi-insectes. Mi-snack. Alors, vous avez des araignées qui ont des formes d'ananas, des burgers avec des pâtes en forme de frites. Bon, c'est débile hein, comme point de départ, mais ça ouvre sur un jeu vraiment très plaisant. Ça fait un peu Pokémon Snap d'un côté, parce que vous allez devoir tout simplement trouver chacun des Bucksnax qui sont sur l'île dans les différentes zones qui sont pas très originales hein. C'est c'est une plage de sable hein, une zone volcanique la montagne etc. Vous allez donc répertorier chacune de ces bestioles, essayer de trouver comment les attraper avec différents accessoires qui vont vous être donnés au fur et à mesure, et tout ça va servir un scénario assez rigolo dans lequel vous devez repeupler un village, le village des colons, entre guillemets, des personnes qui ont suivi l'exploratrice qui vous a invité et qui a disparu. Et donc, il va falloir essayer de redynamiser un peu tout ça. Et derrière tout ça, il y a encore un autre mystère sur les Bucksnax. Qui sont-ils? Que veulent-ils? Quel est leur secret? Etc. Bref, vous allez essayer d'enquêter là-dessus. Et c'est un jeu qui est un petit peu touchant par ces différents persos, justement, qui ont tous des petites histoires... et des motivations et des façons de voir les Bucksnax, comment ils interagissent avec eux. Alors, on a par exemple un fermier, je vais prendre le cas de deux personnages un peu antagonistes, c'est un fermier qui demande qu'à cultiver les Bucksnax et en bouffer tout le temps tandis qu'il y en a un autre qui serait plutôt vegan, tiens, moi, les Bucksnacks, c'est mes amis, je veux les sauver. Peut-être que dans les deux, il y en a un qui a raison ou pas. Mais bref, tous ces points d'accroche entre les différents personnages, ça fait un truc vachement sympa, vachement touchant par moments aussi. Et puis, il y a cette fin qui part un peu dans un sens totalement inattendu, qui est beaucoup plus sombre que ce à quoi on pouvait s'attendre. Et bah voilà, au bout de, j'ai envie de dire 5, 6 heures peut-être, ouais, plutôt 6 heures, vous vous retrouvez avec un jeu qui vous a un peu surpris, mine de rien, qui est beaucoup moins con que ce que vous pouviez imaginer. Et ça fait que Bucksnacks, mine de rien, ça peut être un des jeux, surtout si vous êtes abonné PlayStation Plus, sur lesquels il ne faut pas hésiter à se diriger. Vraiment, ça va au-delà de son aspect cartoon chelou et au-delà de sa musique qui reste dans la tête et de ses bestioles qui font shish kebab quand elles vous agressent. C'est un peu plus que ça. Et donc, ça vaut largement le coup de s'y mettre. Vous irez pour le débile et vous en reviendrez en vous disant « Ah, finalement, ça fait un peu réfléchir, si vous voyez ce que je veux dire. » Voilà. Voilà pour Bucksnacks. Donc, dispo sur PS5, PS4 et PC. Et donc, on finit avec un jeu qui est censé être enfin... on a fait beaucoup de next-gen hein, là, tout à l'heure, mais là, ouais. Celui-ci, c'est censé être vraiment la preuve que la next-gen... On est dans un autre
monde. Dans le titre du jeu, il y a précisé que c'est pas NBA 2K21, c'est NBA 2K21 Next Gen. Donc voilà, c'est bien spécifié. Quand ouais, donc tu télécharges le jeu, c'est bien spécifié qu'on est sur la version Next Gen.
Ça c'est pas que à cause du prix qui est bien sûr plus élevé sur Next Gen quand on a acheté la version PS4 et qu'on voulait en profiter sur PS5 par exemple.
Fallait acheter la Bomba Forever à 100€, tu aurais été bien. Voilà, tout à fait. Que dire ? Bah déjà, premièrement, la com de 2K, on se rappelle, au printemps, début de l'été, c'était avec Zion Williamson, c'était de dire, c'est ça la next gen. Donc, quand arrive NBA 2K21 sur current gen au mois de septembre, on fait un peu la gueule. Déjà parce que le système de shoot n'est pas fou, parce que c'est le même jeu que l'année précédente, et qu'on ne va pas se mentir, au niveau de la gestion des moteurs et des consoles, je pense que vous avez le concept, vous ne pouvez pas faire mieux. Donc on se dit, on pouvait attendre qu'ils nous arrosent de contenu, ce qu'ils n'ont pas forcément fait. Et on s'est dit, bah voilà, ils vont peut-être le faire sur la version next-gen. Il faudra qu'elle soit next-gen en termes de contenu, il faudra qu'elle soit next-gen en termes de technique, il faudra qu'elle soit next-gen en termes de graphique. J'ai parlé des trois thèmes, je vais pouvoir en parler assez rapidement, vous allez comprendre. Alors, graphiquement parlant, oui, il y a un step-up. C'est indéniable, c'est une demi-claque dans la figure, dans le sens où c'est beaucoup plus beau. C'est le plus beau 2K. C'est simple, c'est le plus beau jeu NBA 2K qu'on ait eu de l'histoire, hein, forcément, en nouvelle génération. On pouvait s'en douter. Déjà qu'il tourne en 60 FPS, donc ça vous change la vie, honnêtement. Joueur de 2K, ça c'est une certitude. Après, le jeu est déjà très beau de base. On sent qu'il y a un gap, notamment en termes de reflets sur les parquets. Alors, le gap n'est pas forcément au niveau du public, hein, qui a toujours la même tête, toujours les mêmes animations. Au niveau des joueurs, par contre, on a encore gagné le teint, par exemple, les teints sombres pour les visages un peu clairs ou un peu foncés sont très, très réussis. Beaucoup d'effets de lumière, beaucoup de nouvelles gestuelles très, très discrètes. Hein. C'est-à-dire que, honnêtement, généralement, quand il y a beaucoup de nouvelles features visuelles et graphiques, on les voit beaucoup, ça saute aux yeux. Pas nécessairement. Il y a beaucoup de nouveaux plans de caméra ou de mise en scène un petit peu différente autour de l'arrivée des joueurs, au niveau de certains moments comme les cartons, etc., la mi-temps, qui est plutôt pas mal. Mais je fais déjà un reproche. Mm-hmm. Moi, quand on parle de next-gen, j'attends que les défauts techniques et graphiques des précédentes versions soient changés. Je pense à l'expression faciale des joueurs ou des personnages dans les différents modes qui commençaient à laisser à désirer sur 2K, ça bouge pas. Moi, ce qui m'a surtout gêné, c'est le côté un peu rigide, c'est-à-dire qu'en dehors des animations du basket pur, tout ce qui va toucher à se déplacer dans l'espace, bouger, rentrer en collision avec une autre personne, par exemple, je sais pas, vous voyez LeBron James qui descend du car et qui croise quelqu'un, c'est pas fou. Je veux dire, sur PS4, j'accepte. Sur PS5 et Xbox Series X, j'accepte beaucoup moins. Voilà. Donc, mais, c'est une fois de plus, on sait, c'est les premiers jeux des nouvelles consoles qu'on peut un petit peu pardonner, mais quand on tease comme 2K l'a fait sur le côté next-gen, attention à ne pas tromper un petit peu le chaland. Sur la partie technique, c'est le feu, les gars. Je veux parce que moi j'ai souffert comme Jaja sur PS4 avec un système de visée qui était pas ouf. Alors Touquet avait rectifié le tir avec un patch, mais malgré le patch, il avait fallu encore patcher le patch parce que c'était pas dingo. En termes de collision, c'était pas fou non plus. La gestion des collisions était pas top. Les joueurs, on sait qu'on est en fin de génération sur PS4 et Xbox One, mais les joueurs faisaient lourd et pato. Là, déjà, précision, putain de chargement dans NB2K, quel bonheur. Tout est fluide. Je lance, je joue. Je choisis, je joue. C'est le feu. Et après, en termes de gameplay pur, on n'a jamais vu un jeu de basket aussi fluide. Ça, c'est une certitude. En termes de shoot, bah, en fait, c'est le touquet qu'on aurait aimé avoir déjà au mois de septembre sur console actuelle génération. Voilà. Mmh. Bah, du coup, on l'a là sur PS5 et Xbox Series X. Moi, j'ai testé sur Xbox Series X. Voilà, tout simplement. J'y viendrai parce que c'est important au niveau de la comparaison entre la DualSense et la manette Xbox. Mais déjà, techniquement, ouais, ça tient la route de fou. Je vous cache pas, j'avais un peu peur en me disant, est-ce que je vais retrouver les mêmes défauts? Pas du tout. C'est fluide. Ça bouge bien. Tout répond bien. Les joueurs, hop, je fais dribble main gauche, main droite, on sent vraiment le poids du corps qui glisse. Hein. Voilà, c'est vraiment hyper fluide. Et pour revenir aux manettes, déjà, il faut savoir que tout vibre sur la manette Xbox. Donc, c'est-à-dire que chaque rebond est une vibration sur la manette. Donc, au départ, c'est un petit peu déroutant, mais on s'y fait. Et en plus, ça sert parce qu'on se rend compte, voilà, évidemment, de la main forte du joueur selon comment le rebond, selon comment il appuie sur la balle. Au niveau des collisions, c'est super bien fait aussi. On n'a pas les fameux systèmes de gâchette adaptatif qui, elles, vont se raidir au moment de la fatigue. Ça, on l'a sur la DualSense. Donc, ça, je peux vous en parler, même si je n'ai pas pu le tester par moi-même. J'ai des petits espions sur la net qui l'ont fait à ma place. Donc, voilà, qui étaient très contents du rendu. Voilà, sur la partie technique, voilà ce que je peux vous en dire, c'est que honnêtement, c'est le touquet abouti qu'on aurait voulu avoir sur actuelle génération de console.
Ok, bon, et du coup, ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire, le contenu.
Alors le contenu, déjà moi, ce qui m'a gêné, c'est de voir que on a le même mode scénario à l'identique que celui des current gen. Eh les gars, faire un effort. Si vous annoncez un NBA 2K21 next-gen, proposez-nous un scénario un peu différent. C'est-à-dire qu'on aurait bien avoir. Alors, oui, il y a quelques cinématiques en plus. Oui, il y a quelques plans de caméra en plus, mais c'est globalement la même chose. J'étais assez déçu. Ce qui est pas mal, c'est que le quartier, c'est fini. On est dans une ville, The City, comme on a pu teaser 2K. Donc, très bonne idée sur le papier, avec un système d'affiliation, s'affilier à des quartiers. On a des PNG dans le jeu qui vont nous proposer des objectifs secondaires, donc l'occasion d'aller gratter les fameux virtual currency, les VC qui coûtent tellement cher et qui sont tellement compliqués à obtenir en grande quantité dans le jeu. Par contre, vous avez vu, hein, dans cette Brain B2K, je fais point fort, point faible tout de suite. Par contre, moi, ce qui m'a gêné beaucoup, c'est le système d'accession à la ville. Il faut d'abord dominer ce qu'on appelle Rookieville, qui est une petite zone portuaire. Il faut faire plusieurs matchs pour grinder en niveau et grinder en statut. On est d'abord rookie, ensuite, il faut avoir le statut pro. Une fois qu'on est statut pro, le portail de la ville s'ouvre et vous pouvez y accéder. Je trouve ça dommage. Alors, l'idée n'est pas mauvaise. Par contre, l'idée est pas folle dans le sens où évidemment qu'on a que 60 de général ou 63 et que les mecs en ont 80, on sait qu'on va perdre le match. On sait aussi que les deux autres joueurs, parce que c'est du 3v3 playground, voudront pas jouer avec vous. Donc j'aurais préféré qu'on fasse un système de classement où les joueurs les moins classés jouent entre eux et step up entre eux. Évidemment, ceux qui ont 80, 86 de général, normalement, ils n'ont pas besoin d'aller dans la partie rookie-ville. Et puis, pour l'instant, c'est compliqué de donner un véritable avis sur The Society, puisque les serveurs, au moment où moi j'ai testé, étaient assez vides quand même. Il n'y a pas énormément de personnes. En fait, la ville est beaucoup trop grande aujourd'hui par rapport au nombre de joueurs qu'il y a. Je pense que c'est un peu, comme j'ai dit pour Miles Morales, avec ce côté un peu extension promesse pour l'avenir. The Society, c'est le futur de ce que va être NBA 2K.
Voilà. Alors, je voudrais juste revenir sur un détail, Alix. Oui. Comment tu écris le mode dont tu viens de parler ?
Society ?
Oui. C-I-T-Y ?
C-I-T-Y, ouais.
Ouais, donc City, donc. City.
Ouais, moi j'ai envie de dire Society, ouais.
Alors, voilà, donc Alix, Alex,
ah
et
oui,
l'accent
moi j'ai du
anglais.
Vrai, on le sait, évidemment.
Donc c'est The City, voilà, The City.
À la quotidienne, ouais, comme ça. Mais de toute façon, Thomas, ça lui fait plaisir.
À ne pas confondre avec Society, le magazine, évidemment. Donc...
Thomas, ça lui fait plaisir, donc c'est parfait. Ça fait rire Rami, donc.
Ah ben là, ça va encore faire plaisir à Thomas, effectivement.
Donc, niveau contenu, on a cette nouvelle zone, beaucoup plus étendue. On a un mode carrière pour les filles, la WNBA. Donc, ça s'appelle The W, tu vois, je ne sais pas, ouais. Pas etc. Alors, c'est une bonne idée parce qu'on dirige une joueuse qu'on customise, un avatar qu'on choisit soi-même et qu'on va inclure dans l'une des 12 franchises de la Ligue féminine. Par contre, ça manque d'un scénar, en fait. C'est-à-dire que tu as un scénar pour les mecs, mais tu n'as pas de scénar pour les nanas. Là, ça me gêne. Par contre, ce qui est top, c'est que tu n'as pas besoin d'acheter des VC. C'est-à-dire que tu as des objectifs à côté de tes parties. Ça peut être développé, par exemple, ta marque de fringues, ta com ou d'autres à côté du basket. En réalisant ces objectifs, tu vas gratter de la monnaie virtuelle. Et du coup, cette monnaie, tu vas pouvoir la réinjecter dans du cosmétique ou dans la progression de ta joueuse. Pourquoi ne pas avoir fait ça avec les mecs? Bah, évidemment, hein, parce qu'il faut bien que ce soit un modèle économique qui rapporte de l'argent à tout cas. Mais si vous arrivez à proposer l'un, pourquoi ne pas l'étendre surtout? Donc, à voir, est-ce que c'est aussi une façon pour dire à Touquet, on vous a entendu sur les virtual currency, peut-être qu'éventuellement, on pourra trouver un meilleur équilibre.
Bah, peut-être qu'ils feront des analyses de données pour savoir aussi qui a joué à ce mode-là, comment ils vont faire pour pomper un peu plus de fric. Par là,
sans scénar, je ne suis pas certain que beaucoup de gens vont jouer au mode CW. Je pense, hein, voilà. Parce qu'avec un scénar, c'était peut-être une autre histoire, une autre approche. Donc très voilà, bien. Au final, pour dire NB2K Next Gen, oui, mais pas au point de se dire ça y est, c'est la grosse Next Gen. Pour moi, c'est la petite entrée en matière dans la Next Gen pour NB2K21.
Très bien. Bon, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour de tous ces jeux dont on voulait parler. Demon's Souls, Call of Duty, Black Ops, Cold War, Miles Morales, Bugsnax, NBA 2K21. Vous avez maintenant à peu près toutes les armes, vous qui nous écoutez ou qui nous regardez, pour savoir quels sont les jeux de cette nouvelle génération qui peuvent vous convenir. Voilà, je crois qu'on n'a pas grand-chose à rajouter. Merci Rami. Merci Alix. Merci Johnny, hein, qui nous a quittés, évidemment. Salut mon pote. Et merci Poufy qui évidemment a réalisé cette émission. Merci à vous, comme d'habitude, de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On n'oublie pas de vous rappeler que tous les jours, il y a la quotidienne, n'est-ce pas Alix? C'est toi qui la présente avec Thomas. D'ailleurs, là, ouais. tu vas devoir bouger de ta nouvelle base secrète pour venir enregistrer, si je ne m'abuse.
Exactement. On termine ce podcast et je fonce.
Ouais, et d'ailleurs, tu as un peu de soleil. C'est bizarre parce qu'on est pas loin l'un de l'autre là tout de suite, mais moi, j'ai pas le même soleil de mon côté. C'est vraiment étrange.
La classe.
Ouais, exactement. C'est la classe. Voilà, n'oubliez pas de suivre la quotidienne tous les jours avec des infos importantes des dernières 24 heures. Comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, vous prenez soin de vous et on vous embrasse. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.